pour que la paix ne soit pas qu'une bonne.
Voilà, on va disons retrouver notre confrère Emmanuel Elamézy. Il faut noter que l'exploitation du gamma n'a pas produit un impact positif dans les développements de la province du Kasaï oriental. C'est ce qu'affirment les autorités de cette province diamantifère. Emmanuel s'est penché sur la question, donc on va le retrouver dans quelques instants.
Un bougimaï sur 93,8.
À ce sujet, le gouverneur invite les entreprises étatiques et para-étatiques, les membres de la FEC, les exploitants du diamant, ainsi que toute la population à se tourner vers les activités agro-pastorales. Selon nos sources, des dizaines d'hectares sont déjà consacrés aux activités agricoles. Quelles sont les stratégies mises en place pour favoriser le développement de l'agriculture dans la province du Kasaï oriental? Réponse avec Bruno Kazadi-Boukassa, vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental. Mais d'abord, on va faire le point avec Emmanuel et la Mégie. Emmanuel, vous êtes en ligne, bonjour. Alors, donc, on va retrouver Emmanuel et la Mégie dans quelques instants. Question de vous rappeler rappeler nos deux numéros pour participer à cette émission. Il faut donc composer le 081-070-20-50 pour les SMS. Et si vous voulez nous appeler en direct, composez le 081-890-63-94. Et nous vous rappelons que nous avons la possibilité de vous rappeler si jamais vous nous appelez. Alors, donc, ne nous bipez pas. Et ceux-là qui nous suivent sur les nets, écrivez-nous à action@radiocabu.net.
C'est la totale bascule. La Ligue des Enfants Bénis d'Afrique. African Kings. Là, t'es parti. Je m'appelle. Je m'en parle. Il est beau dans la chambre. On se rendra à l'évidence, papa,
papa. Alors nous avons Emmanuel et la Mégie en ligne. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Alors, le Kasaï oriental est reconnu comme province diamantifère. Qu'est-ce qui expliquera aujourd'hui cet appel de l'autorité provinciale à se tourner vers les activités agro-pastorales?
Retenez que c'est depuis leur accession à la tête de cette province que les autorités du Kasaï oriental font de l'agriculture priorité des priorités. Ces autorités estiment même que le diamant n'a rien fait dans le développement du Kasaï oriental depuis plusieurs années. On écoute un appel lancé par le gouverneur de province lors d'une de ses interventions, Alphonse Ngoy Kassandi.
On n'a plus que le diamant pour créer la province natale, mais aujourd'hui, c'est constat, justement, j'invite la population de la province du Kasaï oriental de s'adonner à l'agriculture. Affaire de l'agriculture, notre priorité.
Voilà, alors l'appel lancé a-t-il été entendu quand on sait que les diamantaires sont habitués à gagner des bénéfices dans l'immédiat, tandis que l'agriculture elle est saisonnière. Les diamants n'a-t-il réellement rien fait pour le développement du Kasaï oriental? Vous avez vérifié cette information, Emmanuel?
Oui, Gilles, mais dans l'ensemble, les opérateurs économiques sont favorables à l'appel du gouverneur. Ils veulent faire l'échange, l'agriculture. Ils estiment que le diamant seul ne garantit pas l'avenir, sauf si on y associe à l'autre activité comme l'agriculture, principalement. On va écouter tour à tour deux hommes d'affaires d'un Bujumaï. Un est du secteur du diamant, l'autre du secteur de commerce. Mais aujourd'hui, ils ont accepté l'appel du gouverneur et se sont impliqués dans l'agriculture. On les écoute.
Moi, je suis diamantaire, je fais des diamants et j'associe mon diamant à autre chose. Dans les soucis de ma province et de soutenir les mots d'ordre de l'autorité provinciale, c'est pour ça que je suis maintenant dans l'agriculture. Donc, faut pas seulement être renfermé dans les diamants. Bien sûr, les diamants, c'est un bon métier aussi, mais on a beaucoup d'expérience par rapport à nos grands frères qui ont fait rien que les diamants. On a vu comment leur fin était. Vous voyez, aujourd'hui, quand la MIBA ne tourne pas bien, c'est toute la province du Kassai Oriental qui est paralysée. Si il y avait d'autres activités, par exemple, l'agriculture, l'élevage, donc on n'allait pas vraiment sentir les choses par rapport à ça.
Oui, mais l'appel a été lancé, selon nos sources, depuis l'année dernière. C'est ce qui veut dire que les premiers pas ont été entamés. Y a-t-il quelques résultats encourageants déjà?
Oui, tant soit peu, hein, GR. Lors de la dernière saison agricole, il y a eu quelques opérateurs économiques qui s'étaient déjà lancés dans l'activité agro-pastorale et en province. Et certains ont même affirmé avoir récolté de bons fruits, cela moyennant quelques difficultés. On écoute cet opérateur économique qui montre les bienfaits de ce qu'il a récolté.
Je me tente beaucoup de choses que je me suis encore entendu. Dans mon bas, dans comprendre le message, je suis en train de me dire que 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 je suis en train de me
Oui, on sent que cet intervenant est vraiment déterminé à s'engager dans cette démarche disons, de l'agriculture, hein.
Oui, il est vraiment déterminé. Il dit comment il a fait le choix dans les villages. Il a engagé la main d'œuvre locale, les jeunes des villages. Il les a payés, ils ont travaillé pour lui. Et que c'est bon qu'il perdait beaucoup de temps dans le commerce, que dans l'agriculture, dans des choses de 3-4 mois. Il a vraiment gagné quelque chose. Il dit que c'est vraiment important.
Eh bien, on sait tout de même que pour mieux faire l'agriculture, il faut avoir des terres arables, des engrais chimiques, des semences, ainsi que beaucoup d'autres paramètres. Tout ça est déjà acquis en Mbujimayi, Emmanuel.
Hier, je ne suis pas mieux placé pour répondre à toutes ces questions-là, mais toutefois, il faudra signaler que le PRESAR, hein, le projet de réhabilitation du secteur agricole et rural, un programme du gouvernement, s'investit déjà dans la province, dans cette opération agricole. Mais pour le reste, c'est notre invité qui n'est autre que le vice-gouverneur de province qui pourra nous donner plus de détails sur cette affaire ou sur toutes ces questions.
Alors, avec vous, on s'arrête là, Emmanuel, et à très bientôt.
Merci, Gérard.
Bruno Kazadi Bukasa, vous êtes vice-gouverneur de la province du Kassai Oriental. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Excellence, monsieur le vice-gouverneur, qu'est-ce qui motive votre appel à l'agriculture au Kassai Oriental?
C'est la crise alimentaire qu'on est en train de vivre pour le moment, et concrètement la hausse des prix des produits vivriers, et qui est due surtout au fait que nous importons presque tout ce qu'on doit manger dans la province, surtout le riz qui constitue l'aliment de base dans la province. Et c'est pourquoi nous voudrions arriver à une autosuffisance alimentaire pour nous prendre en charge. Parce qu'on ne peut pas se développer sans arriver d'abord à produire soi-même ce qu'on a besoin pour manger.
Alors pensez-vous réellement que le diamant n'a rien fait pour le développement du Kassai Oriental depuis des années?
Oui, pour le moment c'est notre conviction et nous en avons des preuves. Parce que ça fait depuis 1930 qu'on est en train d'exploiter le diamant. Et aujourd'hui, si vous allez dans tous les sites où on est en train d'exploiter ce diamant, vous allez trouver que l'habitat n'est pas approprié, c'est très lamentable, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de bonnes écoles, il n'y a pas de route jusqu'à ce jour. Et la ville de Mbujimayi en soi, qui est la capitale mondiale du diamant industriel, il faut voir quelle infrastructure routière nous avons, quel habitat nous avons. Et nous sommes entourés par des érosions, et ça fait que nous avons des problèmes réels dans cette ville qui est la capitale mondiale du diamant.
Mais alors, est-ce facile aujourd'hui pour un diamantaire de quitter ce secteur et se tourner directement vers l'agriculture?
Non, on ne demande pas les gens de quitter le secteur diamantaire pour ce moment, non. Mais il faut qu'ils ajoutent à côté du diamant, mais qu'ils ajoutent l'agriculture. Que les revenus qui sont obtenus au niveau du diamant puissent servir à être investis dans l'agriculture. Voilà notre vision pour le moment.
Alors, le grand problème qui se pose chez nous reste celui des terres arables. Les chefs coutumiers ne cèdent pas facilement leurs terres à d'autres personnes pour exploitation. Avez-vous des garanties que ceux qui vont s'élancer dans l'agriculture seront bien reçus dans les villages et les intrants, les semences, les engrains, où est-ce qu'ils pourraient les trouver facilement?
Donc, nous avons déjà pris des dispositions, par exemple pour des terres, le gouvernement provincial, qui a négocié déjà avec les chefs routiniers, les chefs ont déjà cédé des terres, les terres sont disponibles et nous avons demandé aux opérateurs dans le secteur du diamant ou bien autre secteur qui doivent s'investir, de passer par notre ministère de l'Agriculture qui va les désigner là où il y a déjà des terres qui sont cédées par les chefs routiniers. Donc ce sont déjà des terrains sécurisés où les gens peuvent travailler sans problème. Après, ils vont faire des intrants agricoles comme des engrais chimiques. Les dispositions ont été prises, nous avons pris prendre des contacts avec les opérateurs économiques qui sont allés déjà en Afrique du Sud, en Zambie, pour amener des engrais dans la province. Et pour le matériel des aratoires, avec le projet Pressar qui est opérationnel, les dispositions ont été prises déjà pour que Pressar fournisse aussi le pire matériel aratoire. Et nous-mêmes aussi, au niveau de notre budget provincial, nous sommes aussi engagés à fournir le matériel aratoire et garantir aussi les semences au niveau de ceux qui vont s'investir dans l'agriculture. Et là aussi, il y a BCECO, il y a des programmes de multiplication des semences, il y a la CTB, il y a aussi des programmes de multiplication des semences, il y a Pressar, il y a aussi des programmes de multiplication des semences, et nous pensons pour cette saison A, il y a déjà disponibilité de 300 tonnes de semences qui seront mises à la disposition des opérateurs qui vont s'intéresser à l'agriculture.
Alors, où sont passés les programmes étatiques comme le CNASEM, l'INERA, le PEMCO, le projet maïs au Kasaï oriental et autres? Vous avez une idée, Excellence, monsieur le vice-gouverneur?
Oui, le PEMCO, c'était un projet qui a déjà disparu, qui n'est plus opérationnel pour le moment. Mais l'INERA est opérationnel et il y a la coopération technique d'aide.
Ben, opérationnel,
qui est pour la production de semences de base. Et Pressar aussi a financé aussi l'INERA pour la création de semences de base. Donc l'INERA est en train de reprendre réellement ses activités, pas d'abord au niveau de recherche, mais au niveau de multiplication de semences de base. Et ce sont ces semences de base qui sont multipliées par la ferme semencière d'employés et des agris multiplicateurs. Et c'est au niveau de la multiplication des semences que CNASEM joue maintenant un grand rôle de supervision de la production de ces semences pour que les normes de production soient respectées. Et aujourd'hui, avec la présence de Pressar, de la CTB, de BCECO, CNASEM aussi est en train de se redynamiser pour superviser la production des semences au niveau des fermiers. Bon, c'est pour vous dire que si nous avons perdu, c'est le PEMCO qui est perdu, mais l'INERA, CNASEM, sont pour le moment opérationnels dans la province et vont nous accompagner aussi dans le processus de la relance agricole. Parce qu'on ne peut pas faire la relance agricole sans qu'il y ait la recherche, sans qu'il y ait la multiplication des semences. Et
oui,
nous sommes actuellement en contact.
Monsieur le vice-gouverneur, restez en ligne, on va poursuivre notre entretien juste après les places d'information. Il est 11h à Kinshasa, même heure en Bujimaï, 12h en Bujimaï. La Choco Belinda Bosuma.
La MONUC affirme avoir reçu des éléments de preuve difficilement réfutables selon lesquels, en avril 2008, avant la fin de son service en RDC, un officier du contingent indien commandant d'une base de casque bleu au Nord Kivu aurait fait une déclaration en public à Kichanga dans laquelle il exprimait sa sympathie personnelle envers le Congrès national pour la défense du peuple CNDP et son leader Laurent Kunda. Dans un communiqué qui vient d'être rendu public, la MONUC se désolidarise de cette position. question. Par cette déclaration contraire à l'esprit et à la lettre du mandat des soldats de la paix des Nations Unies, ce casque bleu a, de manière flagrante, failli à son devoir d'impartialité et agit en contradiction totale avec les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la MONUC et son mandat, affirme la mission des Nations Unies en RDC dans son communiqué. La MONUC indique par ailleurs que la démarche de cet officier a été menée totalement à l'insu de son commandement et de la hiérarchie de la mission des Nations Unies en RDC. Province orientale, deux sujets guinéens arrêtés à Isangi, 125 km à l'ouest de Kisangani, par le service de renseignement territorial, ont été transférés mardi à Yangambi, chef-lieu du district de la Tchopo. Selon l'administrateur du territoire, ces guinéens en situation irrégulière au pays sont en quête du cuivre, une pratique d'après lui qui favorise le vol des objets à base de ce minerai, notamment les câbles électriques. Au Katanga, les agents de la division du transport ont manifesté hier devant leur bureau contre ce qu'ils qualifient d'usurpation d'attribution de leur division par la Commission nationale de prévention routière, CNRP en sigle. Il s'agit notamment de l'agrément des garages, le contrôle technique des véhicules automobiles et l'octroi des permis de conduire. Selon Eric Monga, président syndical de la division de transport, cette façon d'agir fait perdre beaucoup d'argent au trésor public. Les responsables de cette commission affirment de leur côté qu'ils agissent conformément à la loi. En Bujima au Kasai oriental, l'aéroport de Bipemba est de nouveau alimenté en courant électrique moyenne tension. La mise en service officielle des nouvelles installations a eu lieu hier en présence du gouverneur de province et des autorités de la régie des voies aériennes RVA. Pour le service technique de la RVA, cette réhabilitation permet désormais à l'aéroport de Mbujimayi de jouer normalement son rôle de relais.
C'est bientôt les 12h à Mbujimayi et disons dans une heure, il sera 12h à Kinshasa. Nous aurons tous les détails de ce bref. Alors, on poursuit Okapi, avec Okapi Action. Nous avons toujours en ligne Bruno Kassadi-Boukassa, vice-gouverneur du Kasaï oriental. Excellence, monsieur le vice-gouverneur, aujourd'hui, tous ces diamantaires qui vont se lancer dans des activités agro-pastorales ne sont pas formés ou ne sont pas très bien outillés pour réellement amorcer cette activité. Est-ce que vous comptez le former? C'est quelle structure qui va s'occuper réellement de la formation de ces agriculteurs?
Oui, nous avons pris déjà des dispositions pour que les agronomes, les moniteurs de l'État, qui sont déjà payés par l'État et qui sont dans des différents secteurs, dans des différents territoires, puissent s'occuper de l'encadrement de ceux-là qui vont s'occuper des champs sur terrain. Parce que je sais que ce ne sont pas ces opérateurs-là qui vont y aller pour commencer à travailler, mais ils vont déléguer les gens. Et ce sont ces gens-là qui seront encadrés, qui seront formés et qui seront suivis par nos agronomes qui sont sur le terrain. Mais ce qu'il y a est que nous, au niveau de la province, nous donnons des informations essentielles à tous les opérateurs pour qu'ils sachent que la réussite dans l'agriculture dépend du moment qu'on a commencé les activités, c'est-à-dire du respect du calendrier agricole, du respect aussi des temps d'application des engrais, du sarclage. Et on ne peut pas s'engager dans l'agriculture quand on ne peut pas être en mesure de sarcler. Et donc, nous les informons sur des opérations principales qu'ils doivent suivre, qu'ils doivent financer auprès de leurs gérants ou bien de leurs responsables qui seront sur le terrain. Mais sur le terrain, il y a déjà une structure qui est mise en place pour assurer le suivi et l'encadrement de tous ces champs-là. Voilà ce que nous avons déjà pris comme disposition.
Alors, disons, si vous pouvez nous faire une idée sur concrètement le programme de relance des activités, ça va s'étendre de temps à temps comme ça? Avant de faire
le c'est durant toute la période de notre mandat. Hein, nous avons débuté depuis la saison B. Et nous allons continuer jusqu'à la fin de notre mandat. Voilà ce que je pourrais vous dire pour le moment.
Et déjà, quels sont les résultats que vous avez pu enregistrer à la saison B?
À la saison B, nous étions déjà très satisfaits de certains opérateurs qui ont pu respecter des opérations culturales, qui avaient respecté le calendrier agricole. Et ils sont arrivés au moins jusqu'à 3000 kilos de maïs à l'hectare. Dans des conditions de la saison B, parce que chez nous, la saison B, C'est la petite saison. C'est une saison où il y a beaucoup de caprices climatiques et où les résultats ne sont pas toujours très bons, quoi. Mais ce que nous avons eu, c'était encourageant. Mais il y avait aussi pour certains opérateurs qui avaient maîtrisé le cerclage. Et pratiquement, ils ont eu parfois même moins de 1000 kilos par hectare. Mais la moyenne avait tourné autour de 1500 kilos à l'hectare. Et c'est, nous étions satisfaits de cela et c'était une première expérience où les opérateurs de diamantaires se sont un peu lancés dans le domaine.
Oui, mais l'idéal serait d'atteindre quelle assignation, par exemple, autour de la production?
Pour nous, ce que nous voudrions est que au niveau de la province, et avec les nouveaux, parce qu'il faut d'abord aussi faire une mise au point, la province d'abord du Cap-Vert oriental, c'est une province agricole. Parce que environ 70% de la population active s'occupe de l'agriculture. Mais c'est une agriculture de subsistance, et une agriculture aussi itinérante, et une agriculture qui est caractérisée par le faible rendement et de faible production. Ça fait que le nombre de personnes qui produisent actuellement ne produit pas ce qui peut servir toute la province. C'est pourquoi maintenant il faut des efforts complémentaires pour que les opérateurs économiques, les travailleurs, les agents de l'État, que tout le monde puisse s'impliquer pour combler un peu ce déficit. Pour la saison que nous allons maintenant débuter, s'il y a au moins un ajout supplémentaire de 50 000 tonnes de produits agricoles qui viennent des opérateurs économiques, les agents de l'État, les fonctionnaires, les agents dans des sociétés, donc, nous nous serons dans le bon pour faire face à cette crise qu'on est en train de connaître chaque fois.
Alors, disons, les curieux aimeraient un peu savoir où sont passées toutes les récoltes de la saison expérimentale.
Voilà, les récoltes sont encore là, se sont gardées pour que ça puisse servir à partir du mois de septembre, octobre, novembre, qui c'est une période qui est considérée ici chez nous comme la période des disettes ou bien la période des subies. Alors, tout ce qu'on a produit cette fois-ci, on a gardé, parce que moi-même j'ai produit aussi, le gouverneur a produit, même les ministres ont produit aussi, les opérateurs économiques. Donc, nous avons gardé pour un peu subvenir aux besoins à la période de subir.
Oui, mais c'est seulement le maïs qu'on cultive au Cap-Vert oriental, hein?
Pas seulement le maïs, mais c'est le maïs qui est l'aliment de base. Et quand on parle de la crise alimentaire dans la province, et quand il y a crise de maïs, c'est pourquoi nous mettons beaucoup de force sur le maïs. Mais entre-temps, on avait produit aussi l'arachide, un peu de nébé, un peu de soja, et puis d'autres choses, quoi. Le manioc aussi, on en produit ici, mais le manioc ne pose pas de problème. Je pense que les besoins en manioc sont presque couverts par la production actuelle. Et là, on ne se fait pas de problème. Là, on n'en parle même pas parce que les besoins sont déjà couverts. Mais c'est le maïs qui constitue l'aliment de base et qui est réellement déficitaire dans la province.
Oui, ben vous avez, on retient une chose que le CNASM et l'INERA vous accompagneront dans cette opération. Mais encore faut-il que ces deux structures aient suffisamment des moyens de leur politique pouvant leur permettre de vous accompagner correctement. Est-ce que vous comptez vraiment les appuyer ou l'exécutif provincial compte les appuyer?
Oui, je veux dire que nous pensons les appuyer, mais ils sont déjà appuyés. Je veux dire qu'il y a la CTB qui appuie déjà l'INERA, il y a Précar qui appuie l'INERA, il y a BCECO qui appuie l'INERA.
Oui, mais c'est insuffisant.
BCECO comme Précar, ce sont les structures de l'État.
Et quelle est la part du gouvernement alors? Il participe à combien de pourcents?
Oh non, je pense que nous sommes en train de programmer ça pour cette saison. Hein. On passera prochainement, on vous dira à quel pourcentage nous avons participé quand on va évaluer aussi les coûts de prêtage, de l'appui de prêtage, de déclos et de vote. On pourrait vous dire à quel pourcentage nous avons participé.
On verra pour prochainement. Oui, Bruno Kazadi, c'est Boukassa. Nous rappelons que vous êtes vice-gouverneur du Kassai Oriental. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. On verra peut-être la saison prochaine comment les choses vont évoluer.
Ok, moi je vous remercie alors.